Radio Campus Lille, il est 18h.
Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Heureusement en France. Vous êtes sur Radio Campus 106.6 FM et DAB+. Et comme tous les dimanches de 18h à 19h, nous allons passer une heure ludique ensemble en compagnie de moi-même François, de Reynald.
Bonsoir à tous.
Et de Dominique.
Bonsoir à toutes.
Aujourd'hui, on a un sommaire assez varié. On vous parlera notamment de fake news, quelques news diverses et insolites, et je vous propose tout de suite de commencer, comme d'habitude, vous le savez bien, par l'agenda. Alors, on a eu une année 2020 avec plusieurs événements, mais également assez fortes, comment dire, dans les saluts l'artiste, dans les personnes qui nous ont quittés l'année dernière, et on a découvert ça récemment, c'est ce qu'on appelle « The Death List ». Alors ça existe, mine de rien, depuis plus d'une quinzaine d'années. Hein. Et chaque année, il y a un site qui s'appelle deathlist.net qui liste un peu les personnalités qui sont susceptibles de mourir durant l'année. C'est très joyeux hein, comme site.
Ça, je crois que ça vient d'Angleterre, parce qu'en Angleterre, tu peux parier sur tout. Tu peux parier sur le sport, le football, bien sûr, etc. Mais tu as le droit de parier sur tous les événements, y compris les morts de célébrités. Qui va mourir cette année, ou éventuellement de quoi. Donc, c'est devenu une tradition, pratiquement.
Donc, il y a entre 20 et 50 pronostics. Et il se trouve que l'année dernière, ils ont quand même réussi un 20 sur 50, qui est un de leurs meilleurs scores. Et cette année, on a droit, forcément, à la liste de 2021. Sachant que c'est un site anglais, il y a quand même plusieurs personnalités qui sont anglaises. Et la règle est simple, il faut que les médias du Royaume-Uni en parlent. Voilà, c'est la seule règle. Et on retrouve plusieurs personnalités qui, d'ailleurs, se retrouvent à chaque fois qu'elles ont survécu, plus ou moins dans la liste suivante. Hein, notamment.
Ouais. La liste était bien faite parce qu'on a le classement. On sait à quelle place ils sont cette année et à quelle place ils étaient l'année dernière, pour voir combien de places ils gagnent.
Voilà, c'est ça. Il y en a qui montent fort dangereusement. Et le numéro 1, ça reste le prince Philippe, duc d'Édimbourg, donc le mari de la reine d'Angleterre, qui a quand même 100 ans cette année. Et c'est effectivement, hein, il passe un pari qu'ils ont fait depuis plusieurs années, hein, puisqu'on peut accéder aux anciennes listes.
Il y a des gens de sa famille qui parient sur sa mort et qui peuvent l'assassiner. Je sais pas si tu as le droit de parier sur les morts des membres de ta famille.
Oh, pour les assassinats, ça irait peut-être plus vite aux États-Unis, hein, qui sait. Alors, je ne sais pas si vous avez vu les dernières photos du prince Philippe. Il ressemble plus maintenant à un personnage de Walking Dead. Ça fait un peu peur, d'ailleurs.
Ouais, mais ça compte, il est encore en vie.
C'est peut-être pour ça qu'il reste longtemps, alors. Parce que ça fait déjà sa 9e année dans cette liste et... Est-ce qu'il va te rester la première place encore longtemps?
Mais moi, comme je dis toujours, de toute façon, à la fin, il en restera deux. La reine d'Angleterre et Michel Drucker.
Forcément. Ouais, mais on disait la même chose de Giscard. Hein. Tu as vu ce qui s'est passé?
C'est vrai. Et d'ailleurs, la reine Elisabeth II est dans la liste hein, pour ses 95 ans. Elle est quand même 25e. Or, si vous regardez dans les tops, on a quand même que des personnes au-dessus de 80-90 ans.
Par contre, il y a effectivement, tu vois, à la 7e place, t'as George Shultz, qui est âgé de 101 ans, qui n'est pas en première position. Bizarrement, les gens veulent le voir moins mourir et qu'il apparaît pour la première fois dans la liste.
On n'est pas sur une wish list, hein. C'est pas on espère que telle personne va mourir, non.
Ce qui est bien, c'est que t'as la liste et tu peux commenter, tu peux discuter avec les autres de la probabilité ou pas, donc tu peux éventuellement partager, parce que tu peux connaître l'état de santé de la personne, parce que quelqu'un qui a 100 ans peut être plus en forme, si ça a été un sportif ou je ne sais quoi, que quelqu'un d'autre qui s'est roulé dans la drogue toute sa vie.
Alors, il y a d'ailleurs des petits commentaires dans la description qui, des fois, sont assez rigolos.
Ils ont tous un petit surnom, un petit rappel, oui.
Alors, il y en a, c'est politicien, acteur, empereur japonais, par exemple. Pour le prince Philippe Duc d'Édimbourg, sa description, c'est casual raciste, ce qui est pas mal. On a des personnalités françaises également.
C'est la pire par rapport à ce que tu viens de dire pour le casual raciste.
Voilà, pour aller un peu plus loin, il y a Jean-Marie Le Pen qui est dans le classement.
93 ans quand même. Hein. Je pensais pas qu'il était si vieux.
Il monte dans le classement. Il était 46e dans la liste précédente.
Et on a pas de nouvelles récemment, c'est vrai.
Et lui, il est quand même classifié comme French néo-nazi.
Voilà, comme quoi ils connaissent bien les personnalités françaises, c'est incroyable. Et l'année dernière, ils avaient quand même prédit Valéry Giscard d'Estaing, par exemple, qui nous a quittés. Kirk Douglas, Olivia de Havilland, Vera Lynn, alors c'est pas forcément des personnalités qu'on connaît tous. Pierre Cardin était dans la liste. Alors, si vous regardez bien, ce sont que des personnes qui avaient plus de 90 ans.
Sur la liste, effectivement, la personne la plus jeune est classée 49e. Elle apparaît dans cette liste pour la première fois et c'est Shannen Doherty qui a 50 ans.
Actrice de 90-210, la pauvre. Je sais pas pourquoi. Ah, peut-être parce qu'elle a eu un cancer ou quelque chose comme ça.
Elle est âgée de 50 ans. Quoi.
Alors, d'autres choses peut-être plus joyeuses dans l'agenda, mais bon, que voulez-vous, hein, c'est 2020 qui nous a mis sur cette bonne note pour commencer l'année. On va parler un peu d'écologie puisque le jeu vidéo fait des bonnes choses de temps en temps, et notamment pour l'écologie. Ici, on va parler d'un jeu qui s'appelle Alba, A Wildlife Adventure, qui est un jeu assez sympa au niveau design, assez simple, et qui vous propose de vivre une aventure un peu écologique, puisque vous allez être sur une île, et vous allez devoir empêcher un peu la construction d'un hôtel pour préserver la nature, donc vous allez devoir un peu photographier les animaux, faire des petites quêtes. Tout cela dans un univers très enfantin, puisque vous allez d'ailleurs jouer à un enfant qui va se balader dans la ville.
Une petite fille avec un sac à dos qui se promène dans la nature, ça me rappelle quelque chose.
C'est ça, mais elle n'est pas
accompagnée
d'un
chien. Arrête de chipper. Voilà.
Oh, même moi qui n'ai jamais regardé la série, je l'ai reconnu.
Voilà, c'est le sosie de Dora qui va se balader. Et pour chaque personne qui achète le jeu et y joue, ils vont planter un arbre, ce qui est quand même un concept assez sympa. Et ils en sont à plus de 276 000 copies du jeu. Donc, autant d'arbres qui vont être plantés. Alors, ça va forcément grossir de plus en plus. Et les studios se sont d'ailleurs engagés à réduire leur empreinte carbone de 30% d'ici 2022.
Alors, l'éditeur, c'est Us Two Games, nous deux. Alors, le jeu est disponible sur PS4, Xbox One, sur Steam, donc sur PC, sur Mac, et je crois qu'il est peut-être disponible aussi
sur Android. Sur...
Ah, oui, c'est pas impossible. Oui.
Effectivement, on peut jouer depuis son smartphone.
Le jeu est à 16,99€ sur Steam actuellement. Il a que des références très positives. Il est sorti depuis le 11 décembre 2020 et la société souhaite planter 1 million d'arbres. Donc, ils ont fait un quart du chemin. C'est un petit push pour dire achetez mon jeu, est-ce que je vais planter un arbre.
Ouais,
mais en même temps, connaissant la société, parce que c'est celle aussi qui a fait Monument Valley, qui est un excellent jeu, il y a vraiment un studio de qualité derrière. Donc le jeu vaut vraiment le coup d'essayer, sans savoir si c'est un coup de pub fait pour eux ou pas.
Il faut féliciter ce genre d'initiative, et c'est vrai que c'est un jeu, comme tu le disais, Reynald, très sympathique. Et qui peut être à la portée des enfants. Hein.
Ah bah, j'ai regardé les vidéos que Steam propose. Ouais. Tu peux très bien le faire toi-même pour te relaxer après un autre jeu un peu plus stressant, plus prenant au niveau des nerfs, ou justement le jouer avec tes enfants ou le jouer avec quelqu'un avec qui tu passes un bon moment. Le but, c'est de se promener, de découvrir des choses, de les scanner avec ton appareil photo, ton téléphone, au niveau de ton personnage, il y a plein de choses à faire.
Après, tu sors et tu vas le faire en vrai, dans la nature.
Mais avant 18h.
Ça dépend où tu habites. Mais ce qui est incroyable de voir, c'est qu'on est dans un univers un peu fantasy, mais qui reste réel. C'est quand
même
assez
bien fait. Est-ce qu'il y a des modes pour avoir des armes,
non ? Pas encore.
Je pense à un autre jeu qui, lui, ne tourne pas sur toutes les consoles, hein, mais on va pas y revenir.
D'ailleurs, on a coupé à la dernière émission des infos sur Cyberpunk. Voilà. Mais je pense que, ouais, vu que tu viens de signaler Cyberpunk, on en a dit tellement de mal que les gens l'ont quand même acheté. Donc, je sais plus quoi faire.
Bah, ils attendent sûrement le futur patch de autant de gigas qu'à l'installation du jeu pour tout remettre à plat et tout recommencer.
Et autre chose qu'on a vu également dans l'agenda, et on va rester un peu dans l'univers des enfants et des étudiants, ce sont des étudiants retardataires qui ont une punition un peu hors du commun. On part en Chine, dans une université
ouais. C'est une news qui date un petit peu, mais je l'ai mis en référence à l'émission qu'on a fait il y a 2 semaines sur les émoticônes. Je trouvais ça sympa. Donc effectivement, ils sont arrivés en retard, et au lieu de faire comme à l'ancienne en France où tu recopiais 100 fois une ligne, tu faisais 100 lignes et tu recopiais les mêmes mots, la même phrase, ben là ils ont dû recopier 1000 fois, 1000 emojis différents, pardon.
Donc et avec la transcription à côté.
Bah, c'est plus intéressant parce que quand tu, à l'époque, quand tu devais écrire 100 fois la ligne, machin, à la fin ça t'abrutissait et t'écrivais sans. Enfin, ton cerveau était encéphalogramme, quoi. Tu vois,
t'améliorais ton écriture et ça pouvait te servir. Donc là, recopier à la main des émoticônes qui sont des choses que tu ne fais que sur ton téléphone, ça va te servir à rien en fait. C'est encore plus punitif.
C'est ça le
but. Si encore, encore ils pouvaient les copier sur leur téléphone et l'envoyer par SMS, genre envoyer 1000 SMS à leur professeur avec chaque fois un émoticône différent. Mais non, c'est marrant. C'est une punition très bien. Tourner.
Ah oui, parce que ça force la personne à se concentrer, parce qu'elle ne peut pas faire ça de façon automatique. Et c'est tellement chiant que forcément, ça ne va pas te donner envie de retourner en retard la prochaine fois.
Alors là, on part dans un lycée de Boulogne-sur-Mer, qui s'appelle...
Alors là, c'est pour faire un rapport à l'émission de la semaine dernière où on avait parlé de Ludovic le Rouge qui avait inventé, enfin qui utilisait la 3D et la réalité virtuelle pour que les collégiens et les lycéens... puissent tester leur futur métier, et ben on a un exemple pratique dans le Nord, et pas que dans le Nord, bien sûr, mais à Boulogne-sur-Mer, puisque les futurs marins, ceux qui apprennent dans une école, c'est compliqué d'aller de faire des stages sur des bateaux, ça prend du temps, ça coûte cher, etc. C'est pas forcément pratique. Donc là, ils utilisent un simulateur pour apprendre à piloter des navires.
On avait les simulateurs de vol, que ce soit par avion ou même dans l'espace. Et maintenant, on a carrément les simulateurs. Alors, ils conduisent des gros bateaux. Hein. Ici, on
est des cargos. Sur... Hein.
Voilà, cargo jusqu'à la péniche. C'est une bonne préparation avant l'exercice grandeur nature.
Bah, en plus économique, quoi.
Puis surtout, plus, quand tu es en stage, tu démarres, tu débutes, tu n'es pas forcément l'expérience acquise pour piloter ce genre d'engin. Et forcément, ton tuteur de stage ne va pas te donner la main sur les commandes. Il va te faire des tâches annexes et autres, quoi.
Puis si tu fais une erreur, que tu plantes le bateau en vrai, ça coûte un peu plus cher que quand tu le plantes dans le simulateur. Parce que là, l'avantage, c'est que le professeur qui dirige la manœuvre, on va dire, depuis une console, peut provoquer n'importe quel type de météo. Donc, il y a le professeur qui l'explique, il dit « je peux les faire naviguer par tous les temps, avec force 12, avec de la pluie, de la neige, il peut les mettre dans le noir, tu peux faire toutes les conditions et les programmer à volonté. » Tandis qu'en réalité, c'est pas évident de t'entraîner. Si tu t'es entraîné toujours avec du beau temps, ben, le jour où il y a une catastrophe, tu vas pas forcément savoir réagir.
Voilà. Et là, tu as une console qui correspond à une console réelle pour naviguer.
Ah oui, ils ont reconstitué tout l'habitacle, c'est vachement avantageux.
C'est quand même un investissement de 200 000 euros pour un simulateur, ce qu'on peut appeler de dernier cri.
Donc, en réalité virtuelle, ils sont pas avec un casque, il n'y a pas la peine, mais c'est effectivement, il y a plusieurs écrans devant eux, et ils ont vraiment l'impression d'être dans un poste de commande d'un gros navire.
C'est assez impressionnant comme machine. Alors, on peut commencer à entamer ce dossier sur les fake news. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui a été extrêmement puissant, notamment l'année dernière. Avec le coronavirus, on a eu des news un peu de partout.
On a eu le coronavirus et Trump. Ça multipliait les...
Et le 5G. Donc on va faire un petit tour des meilleures fake news de 2020. Et on pourrait tout de suite ouvrir pour un peu expliquer qu'est-ce qu'une fake news et comment est-ce qu'on fait une fake news. Puisqu'il y a un internaute qui a fait un peu le process du début... Et jusqu'à la fin, hein, puisque sa fake news a été publiée dans les journaux, il a décidé de faire une fake news sur le reconfinement. Et c'est vrai qu'on a eu un deuxième confinement. Et lui, dès novembre, dès décembre, il a déjà publié une fake news indiquant que le gouvernement préparait un troisième confinement. Et il a expliqué un peu comment est-ce qu'on réalise une fake news et comment est-ce qu'elle se retrouve diffusée comme ça dans les médias ?
Parce qu'il ne s'agit pas de faire un faux tweet ou n'importe quoi, ça ne suffit pas. Ou alors vraiment, si on a beaucoup d'abonnés, mais ça ne suffit pas, il faut vraiment rajouter des documents, des images, etc. pour que ça prenne vraiment, quoi, pour que ça accroche.
Donc il se base sur des documents existants, qui sont généralement des notes d'information internes pour le gouvernement. Donc on a généralement en haut le petit symbole de la République française, on a forcément tout en bas un petit code barre, on a un numéro de dossier. Et il a fait comme ça, sur Photoshop ou sur Gimp, hein, pour faire plaisir aux gnous, un montage. Et il a même fait une petite faute d'orthographe à l'intérieur. Il a modifié un peu le document pour le flouter légèrement, comme s'il avait été un peu photocopié à la va-vite.
Parce que si c'est trop parfait, c'est louche. C'est bien fait.
C'est ça. Il a partagé sa fake news dans des petits groupes, hein, forcément des groupes spécialisés et assez intéressés par ce genre d'informations, parce que sur Facebook, voilà, si vous rejoignez un groupe, généralement, vous allez avoir des informations que vous souhaitez avoir.
C'est
si
ça.
Vous êtes plus ou moins fan des news anti-vaccins, anti-gouvernement, vous allez forcément, quelquefois, avoir des fake news. Et c'est ce qu'il a fait. Il a posté à 1500. Les 1500 l'ont retweeté jusqu'au moment où ça a été repris par des petits médias et jusqu'à finir aux 20h de TF1, ce qui est quand même incroyable.
Pour compléter un peu, il a réussi à poster son document sur 4 pages Facebook seulement, avant que le Facebook retrouve son comportement un peu bizarre et bloque son compte définitivement.
La prochaine fois, il faudrait qu'il fasse 3 seulement alors.
Ouais.
Et c'est vrai que les réseaux sociaux doivent faire attention et ont mis en place des mesures qui permettent de réduire au maximum les fake news et de vérifier les informations. On va en parler tout à l'heure. Je vous propose d'écouter un peu de musique avec un thème de back-to-back, comme d'habitude. Et cette fois-ci, le thème du back-to-back sera la fake news. Alors Dominique, je te propose d'ouvrir ce thème de back-to-back. Quelle chanson
Il y avait du choix, hein. On le disait pour plaisanter avant le point, point. Renaud qui chante toujours debout, des trucs comme ça. C'est fake news. Quand tu le vois, c'est pas possible, tu dis non, il y a un bug.
Il y avait Patrick Fleury aussi.
Patrick Fleury qui chante « J'ai appris ». On se demande quoi ? Je ne sais pas. Mais voilà, non, je suis retourné beaucoup plus loin. Une fake news qui date depuis notre enfance, puisqu'on l'a tous entendu étant petit, cette chanson. Elle n'est pas dans le titre, mais c'est dans les paroles, dans le refrain, le plus connu. Chantal Goya et sa fameuse chanson sur le lapin. Un lapin qui, soi-disant, fake news ou pas, aurait tué un chasseur. Mais à vérifier.
Mais je pensais que tu allais nous passer les Beatles.
Mais non !
C'est pour faire un petit clin d'œil à Pierre-Yves.
On peut passer du Chantal Goya pour se priver.
Bon, dédicace à Pierre-Yves qui n'est pas dans l'émission aujourd'hui. On va s'écouter du Chantal Goya. Généralement, je laisse ça en fin d'émission. Hein.
C'est dommage.
Dans la forêt de l'automne, ce matin est arrivé une chose que personne n'aurait pu imaginer. Au bois de morte fontaine, où vont à morte saison, tous les chasseurs de la plaine, c'est une révolution. Car ce matin, un lapin a tué un chasseur. Comme si c'était justice quand il tuait les lapins. Et puis devant la mitraille venue de tous les fourrés, abandonnant la bataille, les chasseurs se sont sauvés. Car ce matin, un lapin a tué un chasseur. Les chanteurs cette histoire quand les chasseurs reviendront. Et s'ils se mettent en colère, appuyés sur leurs fusils, tout ce que nous pouvons faire, c'est de s'en moquer ainsi. Ce matin, un lapin a tué un chasseur. C'était un lapin qui, c'était un lapin qui, ce matin. Chasseur, c'était un lapin.
c'était, bah, vous l'avez reconnu, hein, Chantal Goyen Lapin. Si vous êtes encore avec nous, vous êtes bien sur Radio Campus 106.6 et dans l'émission Heureusement en France. C'est dur d'écouter du Chantal Goya quand même, hein. C'est pas très sympa. Alors, on était sur un dossier de fake news, effectivement, hein, pas, il n'y a aucun lapin qui a tué de chasseur, et il y a également plein de fake news. On était servi notamment aux États-Unis avec Donald Trump qui crée lui-même ses propres fake news, hein, mine de rien, et c'est pour ça qu'il a plus ou moins été banni de Twitter. Alors, lorsqu'il était président, forcément, il y avait beaucoup de précautions qui étaient prises par rapport à son compte. Lorsqu'il démissionnera, s'il le fait de son poste, ses comptes seront très vite retirés des plateformes telles que Twitter, telles que Facebook.
Bah, ses comptes perso, on ne sait pas trop, enfin ses comptes perso. Mais c'est lui qui gérait le compte officiel de la présidence des États-Unis. Et ça, bah, c'est le nouveau président qui va en hériter. Ils vont en profiter pour remettre à zéro tous les compteurs, d'ailleurs.
Alors d'ailleurs, Facebook vient de livrer un premier bilan. C'est plus de 180 millions de publications qui ont été estampillées comme fake news, et notamment lors des élections américaines.
Ça ne veut pas dire que c'est des fake news. C'est-à-dire que quelqu'un les a signalées, pas forcément Trump seulement, lui, mais comme étant des fake news.
Sur ces 180 millions, 265 000 ont été retirés, tout simplement de Facebook et d'Instagram. 3,3 millions de posts qui étaient plus ou moins à but commercial, donc des posts qu'on appelle sponsorisés, et c'était juste pour diffuser des messages politiques en faveur d'un parti spécifique.
Je crois que c'était autorisé aux États-Unis. En France, c'est contrôlé les dépenses pour les campagnes politiques. Mais aux États-Unis, au contraire, plus t'as d'argent, plus t'en mets, tu as le droit, quoi. Je sais même pas s'il y a des limites.
Voilà, il paraît que 95% des Américains ne cliquaient pas sur ce genre de publication. Même s'il y a beaucoup de fake news, elles ont quand même un impact assez limité.
Même si tu cliques pas, que tu vois les messages passer, à force, ça peut te marquer, quoi. Au moment d'aller voter, tu peux t'influencer par la moindre chose.
Mais l'un des plus gros sujets actuellement qui génère de la fake news, ça reste quand même l'épidémie. Pour le coup, on a de tout. La plus spectaculaire restera la liaison entre le 5G et l'épidémie, qui est quand même assez incroyable.
Ouais, c'est
pour ça que ça commence en chien.
Le virus était sans cesse propagé par la 5G. Même quand tu as un minimum de culture scientifique, tu dis oui, bien sûr, comment tu peux faire, quoi.
Et il y a plusieurs études qui ont été faites. Alors, pour contrer un peu les fake news, on utilise ce qu'on appelle le fast-checking. À savoir, donc, on relie les informations de plusieurs médias pour voir si l'information vient d'un média certifié et que des vérifications rigoureuses ont été faites également. Il se trouve que 82% des affirmations qui sont faites sur le Covid sont fausses. Les sujets les plus abordés seront la transmission, comment le virus est-il transmis. Donc, beaucoup de personnes donnent une information qui n'est pas vérifiée.
Je t'avoue que même maintenant, c'est difficile de le savoir. Tu sais même pas s'il y a quelqu'un qui sait vraiment comment ça se propage.
C'est ça. Alors, plus inquiétant, c'est la mortalité, qui est souvent un chiffre qui est trompeur, et le traitement, ou encore c'est l'origine du virus. Alors, dans les théories les plus exotiques...
Comment soigner le Covid, c'est ça?
Voilà,
c'est ce que j'allais dire juste après, mais effectivement... Ouais.
Mais c'est Trump qui a lancé, lui aussi, il en a lancé quelques-unes, hein. Il fallait boire de l'eau de Javel, non pas boire de l'eau de Javel, mais s'injecter du désinfectant, etc. C'était absolument n'importe quoi.
Alors, il a dû d'ailleurs faire une rectification par rapport à cette annonce, puisque des personnes se sont mises à boire du Javel.
Oui, il y a même quelqu'un qui est mort, oui.
Avec ça, tu avais tout ce que les personnes, autres politiciens comme Trump, passaient sur Twitter, qui étaient vraiment les fake news absolus à ce moment-là. Tu leur envoyais certains qui nettoyaient tous leurs aliments, ils achetaient une salade, ils faisaient un bain de Javel, ils nettoyaient la salade avec. Tu as plusieurs YouTubeurs ou streamers Twitch, par exemple, qui avaient fait des compilations de fake news Covid, tellement que là, la bêtise était très haute.
Je me souviens, il y a même des gens qui nettoyaient les pattes de leur chien ou de leur chat, genre avec de l'eau de Javel, etc. Alors que, ou même du gel hydroalcoolique qui n'est pas fait forcément pour les animaux. Et ils ont des parties sous les pattes vachement plus sensibles. Donc en fait, ils étaient brûlés. Enfin, c'était terrible. Ils les rendaient encore plus malades en voulant les soigner.
Bah, c'est un problème qui existe avec le gel hydroalcoolique, même pour les enfants. c'est pas non plus adapté. Ça reste de l'alcool. Et il suffit juste de bien se laver les mains. Hein.
Avec du savon, comme on devait, comme tous les enfants sages devraient savoir le faire.
Voilà. Mais au début, certaines écoles n'hésitaient pas à mettre de l'hydroalcoolique. Pas forcément la bonne solution. Alors, dans les meilleurs remèdes du virus, à savoir que des personnes l'ont fait, hein, et je suis sûr que certaines personnes ont testé, il y avait boire son urine, qui permettait de...
Il y a plein de gens qui le font régulièrement, il paraît que c'est bon pour la santé. Bon, ça peut pas être mauvais, ça.
Alors, il faut boire de l'urine et manger de la bouse de vache.
Ah, là, je dis pas les deux en même temps, c'est pas terrible. Ouais,
il faut bien faire les deux. Boire de la lessive, hein, on est un peu dans la Trump attitude. Prendre des bains de granit. Ça, c'est un peu plus compliqué à faire.
Et si on a de la pierre ponce, ça va aussi.
Tu peux tester, écoute. Tu es sûr que ces gens-là n'ont pas chopé le Covid et sont certains que c'est grâce à ça. Fumer du cannabis serait un remède miracle également.
Je me souviens que c'est vrai qu'on disait que les fumeurs étaient protégés parce que la nicotine les rendait plus résistants au virus. Il y a eu tellement de choses et leur contraire qui ont été dites. Là, je ne sais même pas si c'est vrai, en fait.
Alors moi, j'avais entendu dans les deux sens. Que le Covid s'attaquait aux poumons sains. Donc forcément, les fumeurs, leurs poumons étaient... Que le virus ne voulait même pas y aller. C'est pas bête. Et je me demande si ça n'a pas été lancé par l'industrie du tabac.
Ils en étaient tellement pris dernièrement. Tu crois ? Non, ces gens-là sont tellement honnêtes.
Alors, on a bien sûr des pays qui sont plus sensibles aux fake news que d'autres. Alors forcément, les États-Unis sont bien servis. L'Europe également. Alors l'Europe, on parle de...
Attends, quand tu dis États-Unis, c'est avec ou sans le Texas ?
C'est tout compris.
N'oublie pas de les mettre à part, ceux-là. Hein.
Mais je pense qu'il y a une couleur spécifique rien que pour le Texas.
Ouais,
c'est ça, il est en noir alors que les autres sont en rouge. La France, l'Espagne, le Royaume-Uni sont quand même des zones très dangereuses par rapport aux fake news et notamment liées au Covid.
C'est parce que c'est là qu'il y a les journalistes les moins compétents.
C'est ça, ou les docteurs qui parlent le plus fort. Je sais pas, tu choisis.
Ah oui.
Oh là là, on va se faire des ennemis. Attention, c'est parti. La Norvège et la Suède s'en sortent très bien. Ce sont des pays assez disciplinés où le fast-checking est présent. La Russie, l'Australie, l'Inde, la Chine sont des mauvais élèves, tout comme nous. Celui qui s'en sort bien, en fait, c'est le Groenland.
Emmerder. Ou la Corée du Nord, parce qu'il n'y a pas de news du tout. Donc il n'y a pas de fake news.
Il y a des pays, malheureusement, qui ont souffert de certains remèdes, notamment en Iran. 700 personnes sont devenues aveugles ou sont mortes après avoir bu du méthanol, qui était censé être un remède miracle. Il y a 12 personnes en Inde qui ont consommé une mixture maison à base de graines de datura, qui est toxique.
C'est un poison naturel, la datura, oui.
On peut noter en Corée, tiens, un prêtre qui pulvérisait de l'eau salée dans la bouche de ses paroissiens pour les immuniser.
Pas de problème.
Et 50 d'entre eux ont été infectés par le coronavirus.
Genre après, oui, c'est ça, après ils se sont embrassés en pensant être immunisés, sans doute. C'est bravo, bravo, bien joué.
Mais il n'y a pas que des personnes qui ont souffert physiquement. Faut savoir que, et notamment à cause de Trump, hein, puisque Trump n'appelait pas ça le Covid, appelait ça le virus chinois. Donc, il y a malheureusement cette théorie du complot qui s'est retournée avec des calomnies contre les Chinois, ce qui n'a pas été facile pour certaines personnes d'origine asiatique.
Mais c'est vrai que les Asiatiques, surtout au début du déconfinement, des Covid, on pouvait encore voyager. Dès qu'il y avait des Asiatiques qui arrivaient dans un pays ou dans un endroit, on leur demandait de ne pas rentrer dans la boutique ou de changer de trottoir, de ce genre de choses.
Mais même s'il n'était pas, enfin, si tu avais un collègue que tu as travaillé avec lui des années, s'il se mettait à tousser et qu'il était asiatique au début de la pandémie, il y avait une psychose par rapport à ça. Mais non, l'avantage, c'est que tout le monde l'a.
C'est-à-dire que même les restaurants qui sont près de chez moi, et pour te dire qu'ils sont là depuis plusieurs années, donc ils n'ont rien à voir avec eux, la première fois que j'y suis rentré après le premier confinement, tout de suite, ils m'ont accueilli en me disant on ne l'a pas, on n'a rien à voir avec ça, et surtout, bienvenue. Bon, tellement qu'on les a embêtés, quoi.
La preuve, ils te font la bise.
D'ailleurs, on a plus de pangolin au menu. On l'a
retiré du menu. Et...
Alors, il se trouve que le pangolin, apparemment, c'est une fake news.
Aïe, aïe, aïe.
Oui. Alors, en Italie, on a pu voir récemment, et ça, c'est lié au vaccin qui est en train d'être injecté à des milliers et des millions de personnes, des conspirationnistes italiens ont dévoilé un diagramme assez précis qui serait présent dans le vaccin. Et ils appellent ça
la fameuse micropuce.
La micropuce 5G, puisque n'oublions pas, hein, le 5G est lié forcément à l'épidémie.
Oui, c'est Bill Gates qui a fait ça pour pouvoir, qui a déclenché le virus, pour pouvoir injecter des puces 5G à tout le monde sur Terre. Voilà, pour pouvoir contrôler les gens à distance avec ces logiciels.
Et puis pour avoir une meilleure connexion, hein, ouais, comme ça, si tout le monde est un relais 5G, et ben on est sûr de toujours avoir de l'Internet. Ce qui, mine de rien, une très très bonne idée. Et un peu comme cette news dont on parlait précédemment du troisième confinement et qui est arrivée même jusque dans les journaux de TF1, eh ben, cette personne qui a dévoilé ce diagramme, eh ben, ça a commencé à circuler de plus en plus jusqu'à apparaître dans les médias. Sauf que des personnes ont analysé le diagramme et ont reconnu ce diagramme. Ils se sont dit, mais en fait non, c'est le diagramme d'une pédale de guitare.
Wah-wah.
Alors là, c'était une Dynamic Wah, effectivement, de la marque Boss, pour être exact.
Ah, c'est peut-être Boss qui a fait ça pour faire de la pub. Oh là là.
Ah voilà. En plus, avec le vaccin, vous pourrez faire du wah-wah. C'est pas génial tout ça.
Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure. Une news, même si tu balances une rumeur, etc., c'est pas suffisant. Tu rajoutes un dessin ou une image ou une vidéo, même un peu pourrie, les gens, ça va s'ancrer plus facilement chez les gens.
Alors, celui qui est quand même une des grosses cibles des fake news, ça reste Bill Gates. Puisque Bill Gates, lorsqu'il a quitté Microsoft, s'est attelé à vaincre certaines maladies, et notamment en Afrique, en y déployant des vaccins. Il y a beaucoup de personnes qui sont anti-vaccins. Or d'ailleurs, il y a une image qui est présente sur les réseaux sociaux qui est assez énorme. Donc vous avez deux photos. La première, c'est les chercheurs de vaccins. Donc vous les voyez dans un laboratoire en train d'analyser sur un microscope et de faire des tests. Et l'autre, vous avez une personne sur son toilette avec un smartphone. Et là, c'est le chercheur anti-vaccin.
Ça... Exactement.
Ça m'a toujours fait sourire. Et forcément, Bill Gates, et lui, comme il est un peu lié l'informatique, et ben voilà, on va le mettre en tant que tête du 5G, en tant que tête des vaccins.
Oui, il y a eu des rumeurs comme quoi c'est lui qui dirigeait l'OMS, enfin, l'Organisation Mondiale de la Santé, en douce. Enfin, c'est terrible, je sais pas pourquoi c'est tombé sur lui, hein, vraiment.
Bon, il a toujours été un grand gourou à abattre à l'époque des logiciels, des ordinateurs, donc tu as toujours une petite trace de ça.
Mais c'est ce qui tourne autour de Bill Gates, c'est une grosse théorie du complot, hein. Si on va plus loin. En fait, il veut transformer tous les humains un peu en robots.
Il a presque réussi avec son Windows. Hein.
Ah, sauf que là, Windows s'est quand même pris un coup, puisqu'il a été hacké par SolarWinds. La faille avait été révélée comme peu importante, mais les gens commencent à s'inquiéter, puisqu'une grosse partie du code source a quand même fuité. On a souvent craché sur Bill Gates, hein, Dominique. On a pu faire ça pendant des années avec.
Pourquoi tu parles au passé? Bon, c'est vrai qu'il est plus chez Microsoft, mais aujourd'hui encore, j'ai dit du mal de Microsoft. Hein. Et hier aussi, et avant-hier aussi, je crois.
On va continuer sur les fake news. Je vous propose de faire une autre petite pause musicale. Alors, et je vous promets de ne pas passer du Chantal Goya. Hein, mais quitte à ne pas faire plaisir à Pierre-Yves, j'ai choisi une chanson de Living Colors, une chanson qui s'appelle Cult of Personality, que vous devez sûrement connaître. Alors, ça parle à moitié de fake news, mais ça parle surtout de tous ces dirigeants, hein, un peu comme Trump, hein, qui était quand même un spécialiste de la fake news, qui, mine de rien, ont un culte de personnalité assez importante. C'est Living Colors avec Cult of Personality. And during the few moments that we have left, we want to talk right down to earth in a language that everybody here can easily understand. The cult of personality. I know your anger, I know your dreams. I've been everything you wanna be. Oh, I'm the cult of personality. Like Mussolini and Kennedy.
personality, the cult of personality, the cult of personality.
Voilà, Cult of Personality de Living Colors. On enchaîne toujours sur le sujet des fake news. Comme d'habitude, hein, je pensais que ce sujet, on allait en faire 10 minutes et en fait, on s'éternise encore un peu dessus. Comment est-ce qu'on peut, à l'heure actuelle, réduire ou lutter contre les fake news, puisque on peut voir que ça peut porter atteinte à certaines personnes, hein, jusque physiquement, lorsqu'ils commencent à boire du Javel ou autre. Il y a des réglementations, notamment en France, on essaie de créer des décrets. Alors, un des décrets qu'on a pu voir récemment, c'est pour s'attaquer aux sites qui ont la plus grande visibilité par rapport aux internautes. Si vous avez au moins 5 millions de visiteurs par mois et que vous diffusez des annonces, vous allez devoir maintenant révéler l'identité des annonceurs. Alors ici, on parle de campagne. Hein.
L'anonymisation des posts, des messages, etc. Parce que du coup, tu as, rien qu'en France, tu as 60 millions de spécialistes du virus qui peuvent donner leur avis.
C'est pas qu'ils peuvent, c'est qu'ils vont donner leur avis. C'est ça le problème.
Ils vont pas gêner. J'entendais un spécialiste l'autre jour expliquer que, enfin, justement, comment on lui demandait comment lutter contre les fake news. Quand tu vois une fake news et des conspirations, etc., ça sert à rien d'aller parler aux gens qui la lancent en essayant de le démontrer le contraire. De toute façon, au pire, ça va les renforcer dans leur. Il faut au contraire s'adresser à tous les gens qui sont, pas forcément les gens qui sont convaincus d'une chose ou du contraire, mais justement toute la frange de gens qui sont indécis, qui se posent des questions, qui ont un doute encore. C'est à ces gens-là qu'il faut parler. Les autres, c'est déjà trop tard, tu pourras rien faire.
Alors, une des dernières news, eh ben, on reste en France, hein, qui a échappé au décret, forcément. On va s'attaquer à notre président Emmanuel Macron, qui apparemment, hein, si on en croit nos sources les moins fiables, la France est actuellement dirigée par un sosie. Emmanuel Macron est actuellement en confinement, alors quoi qu'il a, il est peut-être sorti là. Hein,
Est-ce qu'il était vraiment atteint? Hein, est-ce que c'était pas un truc fait voilà. Ça a marché pour ça, ça a failli marcher pour Trump, voilà, qui était soi-disant atteint du Covid. Et là, on a le président Macron qui est soi-disant.
Et ça tombait pile pendant les vacances de Noël, tu vois. C'était
Dis donc, comme pour bien ressembler à tous les Français, pour montrer que c'est un Français comme les autres, hop, il a attrapé le Covid lui aussi.
Comment créer une fake news en direct.
Exactement. Ouais, à mon avis, je suis pas le seul à avoir pensé.
Je sais pas si c'est une bonne chose, puisque ça indique qu'il n'a pas respecté certaines règles de sécurité, mine de rien.
Ouais, mais ça peut le rendre sympathique auprès des gens qui sont touchés, tu vois, qui ont un membre de leur famille qui a été touché aussi.
Pour Trump, c'était clairement le cas, puisqu'il était en difficulté dans sa campagne. Et c'était un double but ici. La première, créer une sensibilisation des gens. Et deuxièmement, une fois qu'il est guéri, de dire, en fait, c'était de la merde, ce virus.
Non, donc, c'est même pas ça. C'est que, vous pouvez m'élire président, je suis peut-être Dieu, mais j'ai survécu, j'ai survécu
au virus. Mais il y a également, puisqu'il a quand même pris des mesures très tardives, et sur certaines mesures qu'il n'a pas prises du tout comparées à d'autres pays, ce qui fait que la propagation du virus aux États-Unis est plus importante que dans d'autres pays. Et pour dire c'est pas grave que je n'ai pas pris ces mesures, puisque moi, même avec mon âge, je n'ai rien eu. C'est juste une grippette, comme on a pu entendre autre part. Mais pourquoi est-ce qu'on pense que Emmanuel Macron, et pourquoi est-ce qu'il a un sosie? Puisque les vidéos qu'il a prises pendant le confinement, il a une tête plus allongée que lors des annonces présidentielles.
Il y a des gens qui s'amusent à mettre les vidéos l'une à côté de l'autre. Et effectivement, on voit une différence. On a l'impression que c'est pas la même personne. Mais en fait, c'est tout bête. C'est parce que la vidéo est pas filmée avec le même point de vue, ni la même. Enfin, il y a une vidéo qui est filmée plus près du visage. Donc, tu peux essayer avec une webcam ou une photo, ou un appareil photo. Tu n'auras pas le même visage selon l'endroit où la distance à laquelle tu mets ton appareil. Et puis, il n'était pas forcément maquillé sur une photo. Enfin, c'est vraiment des conditions différentes.
Ouais, mais ça, c'est peut-être une fake news que tu nous dis. Ça tombe vraiment.
Peut-être que c'était fait exprès. Parce que s'il avait le même visage sur les deux, il y a justement des gens qui auraient dit « Hey, il ne s'est pas filmé à la même distance ni à la même condition, et pourtant il a le même visage, donc c'est forcément un trucage.
» Mais c'est un peu le même effet qu'avec la Terre, qui est plate. Hein. On sait bien.
Alors qu'elle est carrée, tout le monde sait.
Est-ce que ça serait
peut-être qu'elle est creuse en fait, hein, on va s'apercevoir au final, on ne sait pas.
Est-ce que ça serait pas la plus grosse fake news? La Terre est plate.
Je ne sais pas, j'attends encore des arguments contradictoires.
Et une fois j'avais vu donc un documentaire et le mec disait je ne vais pas vous dire que la Terre est plate, je vais vous montrer qu'elle n'est pas ronde. Et en gros il disait on n'est pas sûr qu'elle est ronde. On n'est pas sûr.
Parce que les preuves qu'on a, c'est les photos prises par la NASA, mais des photos, ça se trafique. Enfin, il y a plein d'arguments. Surtout la NASA. Eux qui sont jamais allés sur la Lune, parce qu'on sait bien que c'est Stanley Kubrick qui a filmé l'atterrissage en 69 de la. Ouais.
Puis le drapeau flottait sur la Lune. On a des vidéos qui montrent clairement. Voilà. Puis quand les Chinois ont été plantés leurs plantes sur la Lune, ils n'ont jamais retrouvé les bases américaines.
Mais après, c'est des Chinois, donc on ne sait pas.
Peut-être qu'ils ont déjà mis le virus sur la Lune.
En fait, ils ont caché un laboratoire pour développer le virus sur la Lune.
C'est sur la base cachée de la Lune et que surtout qu'elle ne tourne jamais, donc on le voit pas.
Mais bien sûr, comme par hasard, elle ne tourne jamais. Mais tu parles de la Lune qui est plate, hein, toi aussi.
Oui, c'est, de toute façon, c'est une image qui est projetée de la Terre. Donc,
exactement.
Voilà.
On a bien avancé là.
On n'en a pas parlé de ce laboratoire français qui a cultivé un virus et qui l'a lâché un peu comme les terroristes auraient pu faire une attaque. Et c'est pour ça que Macron dit que nous sommes en guerre d'ailleurs.
Trop de fake news, tu l'as fake news.
On va non pas cette fois-ci parler de fake news, mais de deep fake.
Ah, et là, ça, c'est l'étape ultime de la fake news.
Effectivement, et ça se généralise de plus en plus, à tel point que maintenant, vous pouvez télécharger une application sur Android, et vous savez, on appelle ça des mèmes. Moi, j'appelle ça des mémés, mais vous avez les mèmes, les fameuses gifs animés, ou même juste des images qui ont fait le tour du monde, où chacun s'amuse à mettre sa propre phrase dessus. Et en gros, le concept est assez simple. Vous allez vous filmer sur plusieurs angles, vous allez vous faire plusieurs photos de vous, jusqu'à tel point que l'application va avoir plus ou moins une image de vous qu'elle va pouvoir juste apposer.
Un scan de votre visage, quoi.
C'est ça.
Comme le font certaines consoles, je ne sais plus, il y avait un jeu de basket, par exemple, tu pouvais te filmer, te scanner ton visage et tu pouvais le mettre sur la tête d'un joueur. C'était pas toujours réussi, mais...
Mais c'est vieux ça, c'était NBA. Oh là là, on l'a passé dans un vieux podcast. Alors, n'hésitez pas.
Voilà, c'était le début de la technologie, mais c'était spectaculaire de pouvoir avoir ton visage sur un des personnages de ton jeu vidéo.
Ouais, c'était sur la Xbox One, je crois, avec le Kinect. Et tu pouvais faire comme si tu avais une pseudo VR où le Kinect repérait, prenait l'ensemble de ton corps et tu pouvais agir sur le jeu comme si c'était toi qui étais à l'intérieur.
Alors, mais ça se trouve, dans la dernière version, c'est tellement bien fait que tu pourrais presque filmer le truc et montrer à tes potes et dire hey, regarde comment je joue basket, et ils verraient pas la différence.
Ah, mais là, on y est. Si vous avez bien filmé, que l'application est bien réalisée, ça devient flippant à quel point c'est réaliste.
C'est vraiment bluffant. Les premiers deepfakes, c'était à la télé américaine, quelqu'un qui s'était amusé à faire, un humoriste, un imitateur, qui s'était amusé à imiter avec sa voix des comédiens ou des hommes politiques, etc. Mais on reconnaissait le visage, quoi. Enfin, on reconnaissait son visage à lui. Et quelqu'un s'était amusé à reprendre les images de l'émission de télé où il apparaissait et à utiliser le deepfake. Et c'était impressionnant. On voyait le visage qui se morphait en temps réel, qui devenait l'autre personne. C'était tellement bien fait qu'on a l'impression que c'était le comédien lui-même qui changeait de visage. C'était impressionnant.
Et puis comme ses imitations étaient bien réalisées, ça rendait vachement bien.
Alors, d'ailleurs, on peut faire du deepfake visuel, mais on peut aussi faire depuis plus longtemps du deepfake sonore, où tu peux changer ta voix, imiter la voix et parler avec la voix de quelqu'un d'autre. Ça, c'était déjà le cas, oui.
Quelqu'un peut voler ta voix et récupérer les informations par le même biais. Y avait eu ça d'ailleurs. Hein. Certains appelaient des sociétés en disant il faut absolument faire un chèque d'autant à telle personne, appeler en faisant passer pour le patron de la boîte et derrière récolter un paquet de pognon en quelques secondes. C'était magnifique. Alors là, ce qu'on a pu voir en matière de deepfake et qui a été diffusé carrément publiquement sur Channel 4, on part bien sûr au Royaume-Uni, c'est les vœux de la reine Elisabeth II qui sont généralement faits, non pas sur Channel 4, mais sur la BBC. Mais on s'est rendu compte au bout de quelques minutes que c'était en fait un deepfake.
C'est une émission humoristique, j'imagine.
Effectivement, et à la fin, on voit un fond vert, on voit la personne qui est en train d'enregistrer, donc il n'y avait pas de matière ici à vraiment faire de la fake news.
J'ai regardé la vidéo, c'est très visible tout de suite quand même, quoi. C'est une image de synthèse.
Bien sûr, mais pour quelqu'un de l'âge de la reine Elisabeth, il n'y voit que du feu, hein, entre nous. Mais nous, c'est vrai qu'on a un œil assez averti, peut-être... par rapport aux jeux vidéo ou autres, c'est vrai qu'on voit les petits contours qui des fois sont flous, on voit certains mouvements qui ne sont pas vraiment réalistes, mais la vidéo aurait été plus courte, ils auraient sélectionné les meilleurs moments, peut-être, qu'on aurait pu y croire. La reine Elisabeth, ce n'est pas la seule à se faire piéger de la sorte. Celui qui a beaucoup souffert, ça reste quand même Trump, qu'on a retrouvé dans des milliers de vidéos en deepfake. Alors, pour le coup, lui, on n'a pas besoin de le faire parler beaucoup pour qu'il soit ridicule. On peut juste prendre
Tu le filmes en vrai, puis c'est bon, quoi. Il fait son propre deepfake.
C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup. Il n'y a pas besoin de se forcer énormément. Et est-ce que vous avez vu... Attention, on va...
Attention, spoiler.
Voilà. Si vous êtes fan de Star Wars et que vous êtes en train de regarder The Mandalorian...
Oh, on n'est pas obligé de dire le nom non plus. Hein. On peut juste dire qu'à la fin de l'épisode, du dernier épisode de la deuxième saison de Mandalorian, il y a un personnage très connu de l'univers Star Wars qui apparaît, sauf que l'acteur qui joue ce personnage, l'acteur ou l'actrice hein, qui joue ce personnage, est trop vieux pour avoir joué le personnage tel qu'il apparaît. Donc ils ont utilisé la technologie du deepfake pour le faire apparaître jeune. Et c'est assez impressionnant, même si on voit effectivement un petit peu les défauts.
Alors, des personnes ont vu ça et se sont dit « bah c'est pas très bien réalisé », donc ils ont décidé de le refaire complètement avec leur logiciel à eux de deepfake. Et résultat des courses, c'est encore mieux.
J'avoue que c'est balèze. Il l'avait déjà fait pour... alors, je sais pas si on spoile beaucoup, mais effectivement, il y a l'actrice qui jouait la princesse Leia. Elle apparaît dans Rogue One, sauf que l'actrice est morte entre deux. J'ai complètement oublié son nom, mais ça va être grave, ça va me revenir.
Fisher.
Carrie Fisher, voilà, merci. Et ils l'ont fait apparaître jeune à la fin de Rogue One. Là, par contre, j'ai détourné les yeux tellement c'était horrible, quoi, le résultat. On a l'impression de voir un dessin animé en image de synthèse, c'était terrible.
Et il y a des personnes qui ont fait pareil que pour Mandalorian, ont refait la version deepfake avec d'autres images mieux réalisées. Si on reste dans l'univers d'ailleurs des séries, on peut parler de South Park, l'une des séries les plus satires de notre époque, qui va très loin dans les sujets qu'elle aborde. Ils ont décidé de faire une nouvelle série et qui serait basée uniquement sur le système de deepfake. Et on a pu voir quelques vidéos, notamment avec Sassy Justice, avec Fred Sassy, qui est en fait Trump, hein, c'est bien ça ?
Alors, on ne sait pas en fait. Est-ce que c'est un comédien qui joue et qui utilise le deepfake pour lui mettre la tête de Trump ? C'est compliqué.
Mais voilà, on a un premier épisode de 15 minutes qui aborde notamment les dangers du deepfake. Et vous avez peut-être vu, bon, on n'a pas parlé d'Elon Musk depuis longtemps, donc on peut en parler rapidement. Il y avait une de ses premières vidéos qui, à l'époque, avait quand même bien fonctionné. C'était Elon Musk qui rejoignait des conférences Zoom au hasard. Donc les gens créaient un Zoom et puis quelqu'un arrivait en faisant un deepfake d'Elon Musk. Les gens étaient sur le cul en disant « Ah, c'est vraiment toi ? Oui, oui, c'est moi. » Et du coup, tu peux faire n'importe quoi aux gens de cette façon, mine de rien. Je pense pas qu'on aura une version de cette série de South Park, d'ailleurs, en France, mais vous pouvez retrouver ça sur Internet où vous cherchez Sassy, S-A-2-S-Y, Justice, et c'est fait par les deux têtes de South Park. Des petites dernières news avant de se quitter, Dominique ?
Petite revue de presse, si on parle de fake news.
Allez.
Ah, c'est un compte Facebook qui s'appelle Le Kiosque. C'est Le Kiosque Magazine, qui s'amuse à créer des faux magazines, des fausses couvertures de magazines. Donc, il n'y a que la couverture. Et il y a justement, parmi les faux magazines qu'ils inventent, il y en a un qui s'appelle Complot Magazine, avec un K. Et c'est absolument... Tous les titres sont super marrants. Genre, enfin, marrants ou pas. Par exemple, à la une du numéro 5, celui de décembre 2020, il y a même le prix, 5,30€. Il y a Scoop, les assureurs, c'est-à-dire des anciens nazis. Et c'est que des news complètement bidons comme ça, mais accumulés, c'est génial. Ou des traces de chocolat retrouvées sur Mars. Ça fait un peu penser à tous les faux magazines, genre, enfin, Gorafi, qui existe, etc.
Révélation, les trains en retard seraient en fait en avance.
Et oui, on ne le savait pas.
Mais on est sur le bord aussi.
C'est exactement ça, mais c'est vraiment du pur humour. Mais non. Rien que les titres des magazines sont géniaux. Ils ont fait un magazine qui s'appelle Hot Vidéo, sauf que c'est Hot, H-O-2-T-E, et ça parle que des hot de cuisine, des cheminées, etc. C'est énorme.
Ça fait, c'est des couvertures assez magnifiques.
Absolument. Le magazine sur le rugby s'appelle, au lieu de s'appeler Nous Deux, qui est une référence au magazine bien connu, s'appelle Nous 15. Avec, c'est une vision romantique du rugby, assez magnifique.
Alors moi, j'avais un magazine aussi sur, à l'époque, hein, ça date de plusieurs années, sur l'armée française. Alors c'était écrit en anglais, qui t'expliquait notamment comment fabriquer ton propre drapeau blanc, comment bien fuir au combat. C'est pas tout nouveau, hein, ces couvertures de magazines un peu fake.
Le plus amusant, celui qui m'a fait découvrir ce que vous connaissez peut-être, le magazine s'appelle Valeurs Actuelles, qui est un truc qui parle d'économie, de finances, de banque, etc. Et eux, ils ont fait Râleurs Actuelles. Avec comme titre, etc. Et oh, le clignotant, c'est une option. En gros, c'est que des slogans qui viennent des gens, des râleurs de tous les jours.
Là-dessus, j'avoue que pour reprendre sur les fake news sur le Covid, ils ont fait une couverture sur le Télétravail Magazine, qui était le magazine sur les programmes télé, tout ce qui concerne sur les fake news sur le Covid. Je le vois bien qu'ils font semblant d'avoir mal, ou télé-licenciement, attention au télé-abus, enfin, énormément de choses là-dessus qui sont...
Pour faire concurrence à Tattoo Magazine, ils ont fait pas tatouer du tout magazine.
C'est excellent. Mais rien que les titres, c'est absolument énorme. Bonze Mondial, en référence au magazine de football, Onze Mondial. Un magazine sur les bonzes.
Voilà, bon, on partagera une petite, Dominique, je vais choisir la meilleure. Alors, on va se quitter en musique avec non pas du Chantal Goya, mais un choix de Reynald. Fais-nous rêver, remonte le niveau, s'il te plaît.
Je vais même remonter dans le temps, parce que je vais prendre une des toute première fake news, enfin pas vraiment la toute première, il y en a eu d'autres avant, mais là, une des toutes premières fake news que le monde a connues. Et ça a été remonté par un groupe de rock américain, on les appelait même les Bad Boys de Boston, on continue de les appeler, parce que c'est un groupe qui est toujours...
Ils sont pas encore morts, ceux-là.
Voilà.
Quoi, qui commence à... Je vais aller voir s'ils sont dans la death list. Ouais, bientôt dans la death list. Hein.
Ah bah non, fait, puisque l'héroïne est un antidote contre le Covid.
Donc. C'est vrai. Donc il craignent rien.
Donc je parle du groupe Aerosmith et je veux prendre une chanson qui a été tirée, pas un album, mais plutôt d'un recueil de leur album qui s'appelle Big Ones. Dont ce recueil de leur album, ils ont mis quelques morceaux nouveaux qui n'étaient pas sur les albums précédents. Et le morceau que j'ai choisi pour faire les fake news, c'est Walk on Water.
Oui, fake news.
Je sais pas, moi j'étais pas là. Hein. Est-ce qu'on a fait un fast-checking sur l'homme qui marchait sur l'eau et qui divisait les pains?
Il y en a beaucoup qui ont essayé. Hein.
Il y a eu des problèmes
après.
Voilà, on va se quitter sur cette belle note et avec Aerosmith. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Heureusement en France. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.
À plus.
À plus.
Chers auditeurs, il est 19h, l'heure de retrouver les informations. À demain pour de nouvelles aventures.
Fin de la retransmission.
C'est la meilleure mission que j'ai jamais faite.
Radio Campus, il est 19h.